Bonsoir à tous et bienvenue dans Alter Echo, comme tous les mercredis soirs à 22h et comme tous les vendredis à 14h si vous écoutez l'émission en rediffusion. Olivier au micro. Ce soir, l'émission sera entièrement consacrée aux Chiapas et aux Zapatistes avec des invités en studio. Nous avons en studio Bernard Duterme du Centre Tricontinental, qui est d'ailleurs l'auteur de « Indiens et Zapatistes, mythes et réalités d'une rébellion en sursis » chez Luc Pire. Bonsoir.
Bonsoir.
Je n'ai pas encore ajusté les micros, mais ça ne saurait tarder. Et nous avons également Zoé Mos, qui est membre du comité Chiapas Bruxelles. Bonsoir.
Bonsoir.
Voilà. Alors, nous allons commencer cette émission par le commencement, je dirais, en essayant de tracer le contexte historique de cette rébellion qui est zapatiste qu'on connaît au Mexique. Le Mexique, c'est un pays d'Amérique latine. L'Amérique latine est un contexte bien particulier. Est-ce qu'on peut, on peut classer justement le Mexique dans ce contexte latino-américain particulier qu'on connaît avec tout ce que ça implique, Bernard?
Oui, le Mexique est un pays d'Amérique latine, mais c'est vrai que sur la question des mouvements révolutionnaires qu'on a bien connus en Amérique latine, le Mexique occupe un peu une position particulière dans la mesure où, jusqu'il y a peu, jusqu'il y a encore quelques mois, à la tête du Mexique trônait un pouvoir, un parti, le Parti révolutionnaire institutionnel, issu d'une révolution, donc d'une révolution sociale et populaire au début du siècle. Ça pour dire que le Mexique donc a occupé une position particulière dans la mesure où son pouvoir, contrairement aux autres pouvoirs des autres pays d'Amérique latine, était déjà issu d'une révolution populaire et était donc considéré durant plusieurs décennies en Amérique latine comme un pouvoir progressiste. Il a d'ailleurs eu un rôle assez actif, assez positif vis-à-vis des rébellions et des guérillas centro-américaines durant les années 60, 70 et 80.
Mais il y a donc tout de même un espèce de paradoxe, vu que la situation des inégalités économiques et sociales était finalement, après toute cette révolution institutionnelle, qui est quand même un paradoxe en soi, était devenue finalement aussi béante que dans le reste du continent.
Oui, le PRI, donc le Parti révolutionnaire institutionnel, est devenu un parti-État monolithique, corrompu. Un écrivain célèbre péruvien, Vargas Llosa, parlait du Mexique comme d'une dictature parfaite. On parlait aussi du Mexique comme d'une démocrature, qui donnait des airs de démocratie, mais qui en fait était une dictature. Donc sur le plan politique, très peu de mouvements, vais-je dire, un parti-État qui contrôle l'ensemble de la société. Et sur le plan économique, depuis la moitié des années 80, une ouverture vers ce qu'on appelle la modernisation économique, donc en gros une libéralisation des politiques économiques mexicaines, qui a culminé en 1994, le 1er janvier 1994, avec l'entrée en vigueur des accords de libre-échange avec le Canada et les États-Unis.
Oui, et justement, symboliquement, c'est ce 1er janvier 1994 que sont entrées en scène l'armée zapatiste et le sous-commandant Marcos, qui est devenu fort célèbre aujourd'hui. Juste pour rester dans la chronologie, on parle toujours de zapatisme, mais on sait rarement qui est Emiliano Zapata. Zoé, est-ce que tu peux éventuellement retracer en bref l'histoire de ce personnage? Pourquoi est-ce que c'est à lui qu'on se réfère?
Oui, donc en fait, Emiliano Zapata est un des personnages célèbres qui est resté dans la mémoire de tous après la révolution mexicaine, donc du début du siècle, qui était un Indien et qui a entamé une lutte pour qu'il y ait une réforme agraire au Mexique. Et donc il est resté célèbre comme défenseur des Indiens et comme défenseur de la réforme agraire qui a effectivement eu lieu dans une certaine mesure après la Révolution grâce au président, son nom m'échappe,
c'est pas
Cardenas,
important.
Qui était le père du Cardenas qu'on connaît aujourd'hui et qui a effectivement essayé de mettre en place d'une manière plus ou moins aboutie cette fameuse réforme agraire. Et je pense que la réforme agraire est un des nœuds de la problématique en Amérique latine. au Chiapas, mais dans tout le reste de l'Amérique latine, la problématique de la terre et de la propriété de la terre reste un grand point.
Donc on l'a dit, les apatistes sont entrés en scène le 1er janvier 1994 au moment de l'entrée en vigueur de l'ALENA, donc cette espèce de communauté économique nord-américaine, si on peut dire. Une question qu'on se pose par rapport à ça, pourquoi est-ce que cette révolte, qui est une révolte indigène et une révolte, disons, antilibérale, pourquoi c'est précisément au Chiapas qu'elle est née?
Vaste question. Le Chiapas, comme d'autres régions de l'Amérique centrale, est une région où effectivement les inégalités sont très impressionnantes. Enfin, votre question renvoie aux causes de la rébellion et les causes, sur le plan social et économique et même politique et aussi culturel sont évidentes, une fois qu'on va sur place.
Oui, mais la question vient du fait
Oui.
que ces causes-là, elles sont présentes à peu près dans toute l'Amérique latine. Alors pourquoi là?
Oui, justement, ces causes structurelles sont présentes dans une grande partie des régions de l'Amérique latine. Au Mexique, plus particulièrement, c'est dans le sud du Mexique que les inégalités, ou en tous les cas que les retards par rapport au développement du Nord sont les plus importants. Mais au-delà des causes structurelles, économiques et sociales qui rendent possible l'émergence de mouvements comme celui-là, il y a effectivement toute une série d'autres facteurs qui entrent en jeu. Et c'est parmi ces facteurs, il y a la lente et longue maturation d'un mouvement indien paysan qui a commencé dans les années 60, 70, 80, qui a bénéficié ou été l'objet de toute une série d'interventions extérieures, parfois des manipulations, parfois des apports très positifs, quels qu'ils soient, de la part de toute une série d'intervenants. C'était tantôt le gouvernement même qui a essayé d'intervenir, qui est intervenu plusieurs fois dans le Chiapas pour développer à sa manière les communautés indigènes. À d'autres moments, c'est l'église locale, plutôt progressiste là-bas, qui avait comme objectif de conscientiser les indigènes et de leur faire prendre conscience de leur, selon ses propres termes, de leur situation très défavorable si on la compare au reste de la société mexicaine. Parmi les autres intervenants, il y a effectivement aussi toute une série d'acteurs de la coopération au développement, des ONG et aussi des intellectuels, des universitaires de gauche, maoïstes, marxistes, guévaristes, castristes. Toutes les étiquettes étaient au rendez-vous dès les années 70 dans le Chiapas. Et parmi ceux-ci, début des années 80, un certain Marcos, enfin il n'avait pas encore ce nom-là à cette époque, mais Marcos débarque en 83 ou
Il
84
vient de la ville, lui.
dans le Chiapas. Il vient effectivement de la ville, il est
Est-ce qu'il est indien d'abord?
universitaire, il n'est pas indien, et j'apporte là une petite nuance aussi par rapport à Zapata. Zapata non plus, il n'était pas indien. Effectivement, on a tendance à le présenter comme un indien parce qu'il était le leader d'une révolte indienne. Il était lui aussi métis. Ça peut paraître anecdotique, mais il me semble que ce ne l'est pas parce que souvent les mouvements paysans, les mouvements indiens en Amérique latine et ailleurs d'ailleurs, même s'ils sont à un certain moment démocratiques, c'est le cas du mouvement zapatiste, sont souvent menés ou guidés par des leaders extérieurs. Et enfin, on reviendra peut-être sur cette question, mais une des originalités justement du mouvement zapatiste, c'est de mettre cette caractéristique entre guillemets, Marcos qui vient effectivement de l'extérieur et qui n'est pas indien, s'est rapidement fait appeler sous-commandant pour indiquer sa relation d'obéissance. Théorique peut-être, mais en tous les cas, sa relation d'obéissance aux Indiens. Et pour nuancer cette représentation un peu caricaturale qu'on pourrait avoir du mouvement, qui dirait Marcos universitaire au-dessus manipule des Indiens qui, eux, constituent la base de ce
Oui, il a
mouvement.
d'ailleurs une phrase qui dit commander en obéissant, c'est bien ça?
Oui, c'est un des slogans effectivement les plus répétés du mouvement qui indique cette nouvelle façon de faire la politique que le zapatisme entend prôner.
Ça, on y reviendra. Est-ce qu'on peut en vitesse faire une chronique, une chronologie plutôt justement de de ce mouvement, plutôt de l'armée de libération nationale zapatiste, qui a commencé le 1er janvier 1994? Il s'est passé quoi? Ils ont pris les armes et puis.
Depuis le 1er janvier 1994,
Oui?
donc là, il y a eu 12 jours très très denses.
Ça a été la révolte armée
Les
en bref.
12 premiers jours de 1994, le 1er janvier, effectivement, on annonce partout dans les radios et les télés du monde entier qu'un mouvement qu'on ne situe pas encore très bien, qu'on a du mal à caractériser, occupe 4 ou 5 villes relativement importantes du Chiapas, avec des armes, ou en tous les cas des semblants d'armes, des bouts de bois, la plupart du temps. Et puis s'ensuit une répression militaire très, très féroce, très dure des autorités mexicaines. Et pendant 12 jours, il y a des combats intermittents, des échanges de feu. Et les zapatistes se sauvent finalement, sont contraints de se replier au fin fond de la forêt. Il y a quelques centaines de morts. Et le 12 janvier, pour faire court, en tous les cas, je vais dire poussé par la société civile mexicaine qui se mobilise. Pour interrompre la répression des autorités. Donc, Salinas, le président du Mexique à cette époque, décide un cessez-le-feu. Et donc, depuis lors, c'est une des caractéristiques importantes de ce conflit, depuis lors, le mouvement zapatiste, la rébellion, ce qu'on appelle une guérilla, mais ce n'est plus vraiment cette guérilla, donc, n'a plus participé à aucun conflit armé. Donc, depuis le 12 janvier 1994. Et depuis lors, il y a eu un long et lent processus erratique de paix, de négociation, avec de temps à autre des événements, des mobilisations médiatiques, des consultations de la société civile organisées par les zapatistes pour essayer de sortir encore une fois de l'oubli. Donc, toute une série d'événements qui ont donné vie à ce conflit. Et qui l'ont rendu public de façon intermittente.
Il y a notamment aussi des accords de paix signés avec tout ce que le Mexique compte d'officiel.
Oui, donc un des faits majeurs de ces dernières années, c'est que pas le 1er janvier, mais en février 1996, la première partie des négociations officielles entre le gouvernement et les zapatistes aboutit à un accord de paix sur la question des droits et de la culture indigène. Accord qui ne sera jamais suivi d'effet et qui vaudra qui poussera donc les zapatistes à suspendre les négociations en septembre de la même année, donc en septembre 1996, des négociations qui se poursuivaient sur d'autres thèmes. C'est important de les signaler parce qu'ils passent un peu inaperçus aujourd'hui. Les autres thèmes des négociations prévues entre les zapatistes et les autorités après la première phase des négociations, c'était la démocratie et la justice au Mexique, le développement et le bien-être, et la question des relations hommes-femmes, la question du genre au Mexique. Les négociations ont achoppé sur le premier de ces thèmes que je viens de citer, donc la démocratie et la justice au Mexique, ce n'est pas un hasard, évidemment. Il était plus facile pour les autorités d'aboutir à un accord sur des questions strictement indigènes, même si elles sont très importantes, que d'aboutir à des accords sur des questions plus nationales, qui touchaient directement le pouvoir politique et économique du système mexicain.
Aujourd'hui, c'est pas un hasard si on fait une émission spéciale sur les zapatistes et le zapatisme. C'est évidemment parce qu'il y a eu la marche sur Mexico ces derniers temps. Ils sont arrivés dimanche à Mexico. Marcos a emmené tout son mouvement et tous ses sympathisants là-bas pour justement essayer de forcer la mise en œuvre dans le cadre d'une loi et d'un changement constitutionnel de ces accords de San Andrés. Justement, j'ai rencontré à ce propos-là la semaine dernière, non, il y a 2 semaines, Alejandro Moreno, qui est journaliste à La Guillotina, un journal alternatif dont on reparlera probablement tout à l'heure. À propos de cette marche, il nous a répondu, je vous préviens tout de suite que son français est assez rocailleux, il cherche parfois ses mots et tout, mais le contenu n'en est que plus intéressant. Là, il nous parle justement des objectifs de la marche et des stratégies politiques des zapatistes. Je vous propose de l'écouter. On commentera ce qu'il raconte dans l'interview après.
L'objectif précis de la marche zapatiste à Mexico, c'est la reconnaissance constitutionnelle de l'autonomie indigène à Mexico. Il y a une proposition de loi de changement de plus de 10 articles de la constitution mexicaine pour reconnaître les droits de les nations indigènes mexicaines à le contrôle sur leur processus de développement régional, la reconnaissance de les droits de ces nations à avoir son propre média de communication, son propre moyen de communication, dans un problème à contrôler son processus de développement culturel et la reconnaissance de toutes ces structures d'organisation politique et toutes ces institutions politiques comme la consultation populaire, comme la révocation immédiate du mandat à tous ces représentants qui n'obéissent pas à leur communauté, comme la reconnaissance de toutes les structures juridiques de les nations indigènes mexicaines. Ces changements constitutionnels, c'est un objectif stratégique dans la lutte, non seulement pas des peuples indigènes de Mexique, de toutes les sociétés mexicaines, pour détruire la vieille structure de domination autoritaire à Mexique, parce que signifie la construction d'une nouvelle classe d'État national à Mexique, un État pluriethnique, multiculturel, où chaque culture, chaque secteur social peut tenir un place, peut tenir un place pour se développer. Ouais.
Se développer.
C'est développé. Ouais, c'est très important pour nous la conquête de ces objectifs stratégiques. Mais pour réaliser ces objectifs, c'est besoin de faire une forte pression sur le Congrès des députés et sénateurs mexicains pour changer la Constitution avec ces propositions qui sont le produit du dialogue entre l'armée zapatiste et le gouvernement mexicain et le premier accord du San Andrés. Que signé pour le gouvernement mexicain et l'armée zapatiste dans 1996, pardon. Et pour nous, c'est très important. Mais dans les faits, cette reconnaissance constitutionnelle signifie la reconnaissance d'un fait profond, que c'est la construction de beaucoup de mairies, de municipalités autonomes rebelles en beaucoup d'États du Mexique. En plus de 10 États mexicains, il y a des municipalités indigènes autonomes rebelles. Non seulement pas dans les places zapatistes, beaucoup de mouvements de résistance indigène de tout le Mexique réaliser cette stratégie de construire un contre-pouvoir pour répondre à tous les besoins sociaux de son communauté, de sa communauté, et pour confronter ces vieilles structures autoritaires. Mais les zapatistes, son principale stratégie politique a été la communication, établir un rapport profond avec toutes les sociétés mexicaines, avec tous les secteurs sociaux en résistance. Et cette stratégie, c'est très importante pour nous parce qu'elle a déclenché un mouvement national, non seulement pas de soutien à les zapatistes, un mouvement national pour construire une nouvelle société, pour construire un contre-pouvoir. Et les zapatistes ont donné à les sociétés mexicaines et à tout le monde son principe politique, son technologie politique, organisative et son manière de représentation pour les moyens de réseau horizontal, pour les moyens de une conception de la démocratie très radicale, très participative, directe, qui a tenu beaucoup de résultats dans les moyens urbains, comme ce mouvement des étudiants du Mexique, mais aussi dans tout le monde pour ces raisons de soutien à l'armée zapatiste que c'est la base entre avec beaucoup de mouvements en tout le monde de la protestation contre les sommets du pouvoir mondial, comme la protestation de Seattle dans l'État de Washington, comme la protestation de Nice contre la Union européenne, comme la protestation à Zurich contre les sommets de Davos de la OMC. Il y a une confluence d'une recherche, d'un nouveau politique, d'une expropriation révolutionnaire de la politique. La politique n'est pas plus comme une activité spécialisée. La politique comme une manière de vivre, comme une manière de vivre dignement.
Alors, Zoé, Bernard, qu'est-ce que il y a des choses qui vous font réagir là-dedans?
Oui, enfin, moi, ce qui me fait le plus réagir, c'est les dernières phrases d'Alejandro qui parle effectivement de toute cette façon de s'organiser, de cette participation horizontale qui a eu beaucoup de répercussions, comme il disait, autant au niveau du mouvement étudiant de l'année dernière à l'université à l'UNAM
Oui,
que.
on peut situer brièvement de quoi il s'agit là.
Oui, en fait. Il y a 2 ans, enfin
Oui, en
bref, peu
1999,
importe,
oui.
voilà, les autorités de l'université de Mexico donc, ont décidé qu'ils allaient augmenter le Minerval, qui était vraiment dérisoire jusqu'alors. Et cette augmentation, même si à nos yeux elle paraissait assez minime, était énorme pour la plupart des étudiants qui fréquentaient l'UNAM. Et donc ils ont décidé qu'ils n'acceptaient pas cette augmentation, mais au-delà de la pure augmentation au niveau individuel, des répercussions que ça pouvait avoir au niveau individuel, c'est aussi la défense d'un enseignement public comme service public,
Et
donc
donc ça a mené à
accessible.
un conflit assez dur
Exact.
et
Donc
assez long.
assez long, oui, ils ont fait grève pendant plus de 9 mois et c'était vraiment assez intensif. Et après 9 mois de grève, la police, à la demande des autorités de la ville de Mexico, est entrée et a arrêté presque 1 millier d'étudiants.
D'accord.
Voilà.
Oui.
Et tout ça pour revenir à ce que je disais. Donc, ces étudiants donc se sont organisés d'après les apatistes, comme ils disaient eux-mêmes, donc c'est-à-dire des structures horizontales où personne ne pouvait prendre la parole ou prendre les décisions sans en référer à d'autres. Donc il y avait une certaine structure. Alors, ce qui me semble intéressant aussi, c'est voir au-delà de la lutte pour les droits indigènes que représentent les États hélènes et qui est souvent le seul point qui est relevé par les médias, il y a toute cette lutte anti-globalisation et anti-libérale qui était là et le fait qu'il se soit soulevé le 1er janvier, le
Oui.
jour de l'entrée en vigueur de l'ALENA, n'est pas innocent non plus. Et je pense que.
Est-ce qu'on peut parler de la première lutte anti-mondialisation structurée? Parce qu'ils étaient quand même un peu avant Seattle, Davos et tout ce qu'il a nommé là.
Oui, mais je pense qu'au départ, même si si Marcos et les apatistes ont appelé les gens du monde entier à jeter des ponts entre les différentes luttes et à plutôt lutter chez soi que se rendre au Chiapas. Je pense que ce qui se passe maintenant n'est que l'aboutissement et dans les collectifs, dans les différentes luttes qu'on voit ici, autant les gens qui se sont rendus à Prague, à Seattle, enfin tout ça, il y a clairement, je pense, une réappropriation du discours zapatiste et de la façon de penser, autant au niveau de l'humour qu'au niveau enfin, des actions qui sont vraiment très humoristiques maintenant, qui sont plutôt que radical, aller jeter des pavés ou quoi, ça, je pense que ça a influencé aussi. Et une réflexion qui est moins centrée sur le Chiapas que d'autres luttes pourraient l'être. Enfin, je ne sais pas si je m'exprime
Non, non, ça va.
correctement.
On dit qu'il ne faut pas trop, enfin que certains des éléments de la lutte zapatiste sont occultés au profit de la lutte pour la dignité des indigènes, mais on peut quand même un peu parler de cette lutte pour la dignité. Quelle est la situation, qu'est-ce qui cloche dans la situation des indigènes au Chiapas notamment et au Mexique en général pour générer une telle réaction?
Je crois, je voudrais dire juste avant
Oui, vas-y.
de répondre très précisément à votre question, que dans la suite de ce que Zoé vient de dire, c'est que la profonde originalité de ce mouvement, c'est d'abord, me semble-t-il, le fait qu'on a affaire, pour la première fois peut-être, si on compare ce mouvement avec d'autres mouvements indigénistes ou indigènes ou autochtones qui naissent un peu partout ces dernières années de par le monde, qu'on a affaire à une articulation pacifique. Certainement très fragile, elle repose sur un équilibre très fragile et n'est pas donc définitive, mais à une articulation pacifique entre des revendications ethniques, des questions communautaires et un discours et aussi des revendications sociales et politiques, des demandes de démocratisation du système mexicain sur le plan social, politique et une lutte internationale même, contre le néolibéralisme. On a affaire à une articulation parce que ce mouvement articule des modèles culturels différents, ceux des indigènes d'abord, mais aussi ceux avec lesquels Marcos et d'autres ont débarqué dans le Chiapas. Et bon, tant que cette articulation dure comme telle, c'est parfait, mais effectivement, elle est fragile. Et c'est vrai qu'il ne faut ni surestimer ni sous-estimer les questions indigènes sur lesquelles on se focalise aujourd'hui, parce qu'il s'agit bien de ça aujourd'hui, c'est l'objectif de la marche zapatiste,
Oui, tout à fait.
c'est que la loi induite par les accords signés en 96, la loi donc sur les droits et la culture indigène, soit votée, et cette loi implique d'ailleurs quelques réformes constitutionnelles. Et en gros, les indigènes du Mexique, comme d'autres mouvements indigènes en Amérique latine, on ne parle pas par exemple suffisamment de l'Équateur, me semble-t-il, où il y a là aussi un mouvement très intéressant qui articule ces différentes dimensions. L'objectif de ces mouvements indigènes, c'est ils revendiquent une autonomie qui n'est pas synonyme de séparation. Donc,
Oui, ils sont clairement pas séparatistes, hein.
quand on les taxe de balkaniser le Mexique, on est à côté de la plaque. Donc, ils revendiquent une autonomie sans séparation et une intégration sans assimilation. Donc, on est mexicain indigène. Et c'est cette revendication qu'ils veulent voir aujourd'hui portée dans les textes officiels mexicains. Et pour cause, là, je réponds plus précisément à votre question, pardon, la question ils sont victimes, effectivement, les indigènes mexicains, comme beaucoup de peuple indigène dans toute l'Amérique latine depuis plus de 500 ans, d'une discrimination politique, sociale, économique et culturelle sans nom. C'est une boutade, c'est un slogan, c'est un cliché, mais ils sont citoyens de seconde zone depuis toujours et aujourd'hui ils revendiquent d'être considérés à part égale avec le reste des citoyens mexicains. Je voulais juste, si je suis pas trop long, rajouter un petit commentaire par rapport à l'intervention de l'interlocuteur que vous avez interviewé. C'est que cette reconnaissance constitutionnelle des droits indigènes est certes importante, mais ce n'est pas l'aboutissement évidemment de la lutte zapatiste, et les dirigeants zapatistes le savent mieux évidemment que n'importe qui, parce que si le Mexique demain se dit, si la constitution mexicaine demain dit que le pays est multiculturel, pluriethnique, il ne fera que entériner des pas en avant qu'il avait déjà fait en ratifiant la Convention de l'Organisation internationale du travail, la 169 pour les puristes, qui elle aussi reconnaît toute une série de droits au peuple indigène. Il faut savoir qu'en Amérique latine, l'Amérique latine est le continent où il y a le plus de pays qui ont ratifié cette convention de l'OIT, alors que les droits des peuples indigènes ne sont pas respectés. Je dis ça pour dire que donc il ne suffit pas que le texte principal de l'État mexicain soit revu, soit réformé pour que les choses s'arrangent dans le Chiapas notamment.
Mais d'un autre côté, si les indigènes obtiennent une pleine dignité dans le plein sens du terme, est-ce que ça ne va pas justement de pair avec une certaine justice sociale et un certain développement?
Ça va de pair tout à fait, mais il faut évidemment que cette reconnaissance de dignité ne soit pas purement formelle.
Pour conclure sur la situation des indigènes, on pourrait en fait éventuellement faire une comparaison avec les problèmes qu'on a ici avec les immigrés de première, deuxième ou troisième génération, en inversant en fait la chose, dire que là-bas c'est la majorité qui est immigrée et que la minorité, finalement, ceux qui se sont fait ceux qui ont invité, non, là vraiment non, mais qui ont vu venir ceux qui les oppriment aujourd'hui.
Quelques chiffres
Et parce que
pour...
les questions d'assimilation, intégration, etc., sont des questions qui sont d'actualité chez nous aussi.
Oui, tout à fait. Franchement, le Mexique aujourd'hui est vraiment un laboratoire d'enjeux internationaux qui se posent ailleurs pratiquement dans les mêmes termes, tant sur le plan culturel qu'économique, c'est sûr. Quelques chiffres sur le prétendu miracle mexicain. Si les Mexicains sont aujourd'hui 100 millions, les Nations Unies disent aujourd'hui que de ces 100 millions, il y en a 40 millions qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Et dans les 10 à 12 millions de Mexicains indigènes, la majorité vit donc dans le sud du pays. Et la majorité des indigènes du Chiapas, par exemple, vivent sans eau potable et sans électricité, vont à l'école 1 an ou 2 ans maximum. Donc, c'est peut-être des chiffres très terre à terre, mais qu'il est bon de temps en temps de rappeler pour marquer, pour mettre le doigt sur le gouffre qui sépare effectivement les conditions de vie de ces gens vis-à-vis des conditions de vie d'une minorité qui vit effectivement très bien aujourd'hui au Mexique.
Oui, certainement. Pour clôturer sur la marche zapatiste et la présence encore aujourd'hui de Marcos et d'une partie de ses lieutenants à Mexico, comment est-ce qu'on peut envisager la suite des événements? C'est-à-dire qu'il est arrivé là à Mexico en disant je ne repartirai que quand cette loi sera effectivement mise en œuvre. Il va se passer quoi? Parce que ça peut durer longtemps.
Oui, effectivement, je pense que cette loi va déjà mettre longtemps à être ratifiée par le
Oui, certains parlent de 6 mois,
Congrès.
en étant optimistes.
Et voilà, mais c'est vrai que la question de savoir, parce que Marcos avait dit, on se décagoulera
Oui,
quand
c'est
cette
ça.
loi
Finalement,
sera votée.
est-ce qu'il cherche simplement une sortie politique ou une sortie tout court honorable pour son mouvement de guérilla, pour le transformer éventuellement?
Je pense que les zapatistes n'ont jamais caché le fait qu'ils ne pensaient pas rester éternellement avec leur cagoule et cachés dans la forêt. Mais je pense qu'eux-mêmes ne savent pas très bien comment ça va se passer par la suite. Mais ce que je voulais rajouter aussi, c'est que la réalisation de cette loi, la condition qui a été mise par Marcos pour arrêter
C'est
la
une des
lutte,
3 conditions, effectivement.
voilà, c'est pas juste que les parlementaires signent la loi, c'est que ça soit effectivement mis en œuvre. Et ça, je pense que ça sera assez long. Et pour revenir un peu, je pense que c'est vraiment très important de mettre l'accent sur le fait que la revendication pour des droits indigènes n'est pas du tout séparée d'une revendication plus anti-libérale. Je veux dire que forcément l'un ne va pas sans l'autre et que
Ouais,
si les
effectivement.
indigènes sont aujourd'hui dans cette situation-là, c'est le cas aussi pour une grande partie des métis au Mexique. Et il n'y a pas que les indigènes qui vivent dans des conditions de pauvreté, mais que c'est vraiment important de relier ça. Et je pense que ça en fait que la solution est d'autant plus difficile, vu que le Mexique s'est déjà bien embarqué dans un néolibéralisme à outrance
Oui,
qui
avec
ne fait...
l'ALENA notamment, le symbole
Oui,
n'était pas choisi par hasard.
voilà, et aujourd'hui même, il y a ce plan de
On
les
va y
zones...
revenir effectivement parce que donc ce que j'allais introduire comme sujet maintenant, c'est le fait que s'il y a eu cette marche, c'est finalement une nouvelle sortie de la part des zapatistes après la nouvelle donne politique qui est née au Mexique, c'est-à-dire que comme on l'a dit en début d'émission, le Parti révolutionnaire institutionnel a finalement, après plus de 70 ans de pouvoir, été balayé au profit de Vicente Fox, qui est le nouveau président marqué plutôt néolibéral. Juste une petite question, Bernard. Tu citais les chiffres de la pauvreté. Comment se fait-il que dans un pays avec des chiffres pareils, ce soit un type comme Fox qui soit élu précisément?
Si ça, c'est une petite question. Elle est vaste et je prétends pas y répondre en 15
Mais c'est
secondes.
paradoxal, non?
C'est paradoxal et peut-être paradoxal. Fox est effectivement un leader aux accents populistes. Il est effectivement le leader d'un parti clairement à droite, très conservateur sur le plan éthique, sur le plan des valeurs. et très néolibérale sur le plan économique. Un personnage donc haut en couleur, avec une jolie moustache et des qualités de tribun indéniables, qui a su engranger le mécontentement énorme qui s'accumulait au Mexique face au pouvoir ininterrompu du prix. Et donc on attendait la chute du prix, sans jeu de mots, depuis deux ou trois élections. Elle est finalement arrivée en l'an 2000, et c'est le PAN qui en a bénéficié. En 88, elle était déjà pratiquement là. S'il n'y avait eu des fraudes étonnantes et jamais contrôlées en 88, c'est probablement la gauche qui aurait gagné, le PRD, donc qui aurait mis le prix dehors. Et ici, c'est le PAN qui l'a fait. Mais avec beaucoup de voix, notamment d'intellectuels de gauche. C'est peut-être une anecdote, mais c'est bon de le signaler. Pas mal de gens qui, avec comme principal objectif de balayer le prix du pouvoir, ont invité les électeurs mexicains à voter pour Vicente Fox, qui apparaissait comme le leader le plus en vue, le plus capable de renverser, de renverser le prix. Et ça a donc fonctionné.
Et donc Fox est arrivé au pouvoir avec un credo, c'est la paix, et notamment et surtout la paix avec les apatistes. Il en a surpris certains avec ce nouveau credo. Mais les apatistes et beaucoup d'observateurs jugent qu'il tente finalement d'escamoter le rapport de force en battant les apatistes sur leur propre terrain. Il se veut plus pacifiste et plus conciliant et plus ouvert à la paix que eux. Je vous propose à ce sujet-là aussi d'écouter l'intervention d'Alejandro Moreno.
Je pense que maintenant la politique du gouvernement de Fox se centre dans un mot, la paix. La paix, mais la paix sans une définition précise. La paix pour la paix sous le défi du monde zapatiste. Mais les zapatistes viennent à lutter en Mexique pour la paix avec dignité et justice. Pour la paix et pour les moyens de la résolution de toutes les causes profondes du conflit, les discours du média que d'avant la forte offensive zapatiste politique qui a coupé d'une manière très impressionnante à toutes les structures de domination autoritaire au Mexique, toutes ces structures ont répondu con la intención de recuperar le discours zapatiste dans ce mot, la paix sans adjectif.
Oui, la paix tout court,
C'est
sans condition, plus ou moins.
sans condition pour établir la base d'un nouveau offensive contre le zapatisme. Parce que si l'État mexicain n'accomplit pas l'exigence de la reconnaissance constitutionnelle de l'autonomie indigène, après vient toute une campagne du média pour dire que les zapatistes ne veulent pas la paix, que c'est un mouvement terroriste, que c'est un mouvement intransigeant, que n'est pas possible une autre manière de répondre à ce mouvement que la répression.
La télévision, en fait, adopte la stratégie du nouveau président.
Mais oui, totalement. La télévision, tous ces oligopoles privés sont part fondamentale de l'État mexicain. De toutes ces vieilles structures conformées pour le PRI, pour le Parti de la Révolutionnaire Institutionnelle, mais que maintenant c'est dans un process de recomposition pour soutenir toute la politique de nouveau régime qui parle de démocratie, mais qui tient un projet de profondisation de la politique néolibérale, de intégration économique, politique et militaire des États-Unis, dans les faits, et qui a besoin de ces structures autoritaires pour logrer son objectif.
Mais vu de l'extérieur, quand on ne connaît pas bien le Mexique, quand on vit ici, On voit arriver au pouvoir un nouveau président d'un autre parti qui n'est pas le parti au pouvoir depuis 70 ans, etc., qui tend la main aux zapatistes, etc. Vu de l'extérieur, on se dit, tiens, il y a un autre discours, ça a l'air plutôt positif, etc. Comment est-ce qu'on voit ça de l'intérieur?
Ouais, Fox, c'est un Fox. Hein. Ouais, c'est un politique très démagogique.
Il est ancien président de Coca-Cola au Mexique aussi,
Ouais,
paraît-il.
aussi toute l'Amérique latine. Fox tiene un view du média très audace, c'est audacieux. Lui parle de la paix. Lui a dit qu'il a retiré à l'armée fédérale de la zone zapatiste, mais pas vrai, définitivement. Aucun soldat s'est retiré de la zone de conflit. Il y a un déplacement dans la même zone de conflit de trois ou quatre positions de l'armée fédérale. Mais pas vrai qu'il y a un retirade de l'armée de la zone zapatiste. Mais toute la politique du Fox tient c'est la recomposition de vieilles structures autoritaires pour imposer son politique néolibérale. Parce que le néolibéralisme, c'est incompatible avec la participation de la population dans la prise de décision politique dans chaque société. C'est incompatible. Pour ces situations, le projet du Fox tient comme base un plan, le plan Puebla-Panamá. Puebla, c'est un état du centre du Mexique, très proche à la ville de Mexico. Au sud de la ville de Mexico. Et depuis Puebla jusqu'à Panama, il y a un projet de modernisation avec la construction de beaucoup de conditions pour l'exploitation de toutes les ressources humaines et naturelles de ces zones de Mésoamérique où se trouve la majorité des nations indigènes résistantes du Mexique et de l'Amérique centrale. C'est très dangereux ce projet parce qu'il implique la destruction de toutes les populations indigènes, la destruction culturelle. À Mexique, nous parlons de plus de 60 na nations indigènes différentes, avec son culture, son histoire et son langue. C'est très grave cette situation, mais la résistance indigène qui à Mexique, c'est notre meilleure alternative parce que c'est une vraie alternative civilisatoire devant la crise profonde de la civilisation occidentale, de le capitalisme et de toute la crise écologique qui fait insoutenable notre situation existentielle, notre condition humaine.
Alors on l'entend, Alejandro Moreno se méfie, c'est le moins qu'on puisse dire, du nouveau président Fox. Plus largement, quelle peut être la crédibilité de ce président? Tout d'abord, est-ce qu'on peut considérer qu'il est de bonne foi? On sait que pour lui, le développement, même celui des peuples indigènes, ce serait le commerce, tout simplement. Mais est-ce que quand il parle de paix, etc., est-ce qu'on peut considérer qu'il est de bonne foi ou bien c'est du pur marketing politique, comme le disent les zapatistes
Je pense que Fox est peut-être beaucoup plus intelligent que son prédécesseur Zedillo et qu'il s'est rendu compte que les zapatistes étaient de toute façon une épine dans le pied et que c'était pas en continuant à envoyer des soldats au Chiapas que ça allait se résoudre. Au contraire, il
Pourtant, la
fallait.
puissance militaire est écrasante, ils pourraient en faire leur affaire.
Exact, oui, mais la tendance maintenant foxiste est à ne plus considérer le conflit zapatiste comme une guerre, comme un
C'est ça.
conflit armé. Et donc, je pense que c'est très intelligent de sa part de justement ouvrir les bras aux zapatistes et de se donner une crédibilité, parce que comment plus il domine tous les médias et il est président du Mexique. Donc, je pense que c'est très judicieux de sa part de l'avoir fait. Et je pense effectivement, comme le dit Alejandro, que le seul but de Fox, c'est un néolibéralisme à outrance. Enfin, on se répète là un
Oui,
petit peu, mais.
il introduit là le plan Puebla Panama. Est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu plus en détail de quoi il s'agit?
Le plan Puebla-Panama, donc, comme Reynaud l'expliquait, c'est un plan qui a été conçu déjà sous la précédente administration, l'administration du président Zedillo, et qui est repris aujourd'hui par Fox, qui a un plan de développement forcé, volontariste, du sud du Mexique. Donc, qui part d'un constat, c'est que le Mexique est coupé en deux, c'est que le nord est surdéveloppé, en tous les cas, attaché aux États-Unis et au Canada, et que c'est là que s'établissent la plupart des maquilas, ces entreprises, à capitaux étrangers qui viennent, profiter, entre guillemets, de la main-d'œuvre bon marché locale et qui repartent, avec le produit fini. Donc, ce plan part de ce constat d'une rupture entre le Mexique texan et le Mexique centro-américain, le Mexique du Nord et le Mexique du Sud, et d'une volonté justement d'en finir une fois pour toutes avec ce retard économique que le Sud a sur le Nord. Et donc,
D'uniformiser et de faire entrer le Sud dans la valse mondialiste.
voilà, et donc on va faire entrer le Sud dans le Nord et on va développer d'une seule fois par une sorte de plan Marshall revu à la sauce néolibérale, toute la région qui va de Puebla, juste au sud de la capitale du Mexique, jusque Panama, qui est le dernier des pays centro-américains, sans effectivement la participation des populations locales et à la limite même des gouvernements, parce que c'est un plan qui a encore été très peu discuté en Amérique centrale, mais qui a surtout l'aval des acteurs économiques privés qui travaillent dans la région.
Il paraît que la Banque mondiale et autres
Oui,
acteurs mondiaux ne sont
oui.
pas très loin.
Comme le plan de Colombia, même si c'est deux plans de nature différente, c'est évidemment un plan qui a l'aval du Nord, pour faire court, donc de l'administration nord-américaine, mais aussi des entreprises qui investissent dans la région. Un autre aspect du problème, on parlait des stratégies de Fox, des promesses de Fox. C'est vrai que Marcos n'est pas le seul à être maître en relations publiques. L'administration mexicaine l'est également. On parle moins, évidemment, ces derniers jours, ces dernières semaines, des accords entre l'Union européenne et le Mexique, et qui sont entrés en vigueur, qui ont été signés, négociés ces dernières années. Il s'agit évidemment d'accords très importants. Ce sont des accords de libre-échange que l'Union européenne a signés avec le Mexique, malgré toutes les mises en garde, effectivement, des sociétés civiles respectives. Donc, au Mexique, beaucoup de mouvements de travailleurs autonomes, de syndicats, d'organisations indigènes, etc., se sont mobilisés pour mettre le doigt sur les conséquences que pourraient avoir ces accords. En Europe, un peu moins, parce qu'on n'a pas fait beaucoup de publicité autour de ces accords, évidemment, mais l'enjeu est très important. Juste un chiffre pour l'indiquer, le rapport aujourd'hui entre le salaire moyen d'un ouvrier allemand et le salaire moyen d'un ouvrier mexicain, c'est de 8 à 1. Et donc, l'Union européenne, donc dont fait partie l'Allemagne, dont l'Allemagne fait partie, vient de signer avec un accord de libre-échange avec le Mexique, où les salaires sont considérablement moindres. Les conséquences, enfin, sont faciles à imaginer.
Oui, par rapport au plan Puebla-Panama, on craint également pour les richesses naturelles du Chiapas, qui est, on ne le sait pas toujours, un État extrêmement riche, aussi bien en gaz qu'en pétrole qu'en eau. Il y a beaucoup d'énergie hydroélectrique qui part de là.
Il y en a tellement d'énergie hydroélectrique qui part du Chiapas que seule l'énergie hydroélectrique du Chiapas, qui, encore une fois pour l'anecdote, est venue mettre fin à la crise énergétique, à la crise électrique que vient de connaître la Californie. Et au Chiapas, quand on y va, dans les communautés indigènes, il n'y a pas l'électricité. C'est la caricature, mais c'est cette caricature qui est effectivement la plus révoltante.
Ah oui, c'est une belle illustration. Pour terminer sur Fox, comment est-ce qu'on peut considérer son pouvoir réel? Parce que bon, il est évidemment président, mais on connaît les aléas du pouvoir réel des politiciens. On dit souvent aussi que les conditions qui sont mises par les zapatistes à l'établissement de la paix, et en tout cas à la reprise des négociations, sont à plusieurs égards un test pour voir d'une part la bonne volonté de Fox, mais aussi pour voir quel est son pouvoir, notamment par rapport à l'armée. Donc il y a notamment l'exigence d'évacuer 7 camps militaires au Chiapas sur les très nombreux, c'est vraiment un geste symbolique, mais certains considèrent ça comme un test pour voir s'il arrivera à imposer ça à l'armée, même s'il est lui de bonne volonté. Il y a d'autres groupes de pression aussi, comme l'Église, le patronat, etc. Est-ce que Fox bénéficie réellement de la poigne qu'on lui attribue?
Moi, je pense que le président du Mexique a énormément de pouvoir. Le test des zapatistes, ce n'est pas un nouveau test. Les conditions des zapatistes, elles ont peu évolué depuis le début. Quand on les regarde sur le contenu, elles sont pratiquement les mêmes depuis le début. Leurs conditions n'ont pas été revues ni à la baisse ni à la hausse. Et donc, tous les différents présidents mexicains, différentes administrations qui sont passées depuis le soulèvement zapatiste de 1994, ont été face à ce test. Et Fox, effectivement, le premier qui se donne les moyens de tenter une première réponse positive à ces conditions. Au-delà, évidemment, c'est difficile de spéculer sur la capacité réelle et la volonté réelle que Fox a d'aller au-delà de ces 3 conditions, qui sont, c'est important de le répéter, qui ne sont pas des conditions pour signer la paix, mais qui sont des conditions pour entamer les
Oui, c'est
négociations
ça.
sur les autres thèmes sur lesquels portaient les revendications zapatistes. C'est effectivement très important, et c'est peut-être ça que Fox n'avait pas très à l'esprit quand, dans sa campagne électorale, il a dit qu'il allait résoudre le problème du Chiapas en un quart d'heure. Depuis qu'il est au pouvoir, il s'est rendu compte que ça allait prendre un peu plus de temps. Mais il reste quand même persuadé qu'il suffit d'une bonne volonté générale et d'un appui gouvernemental à la marche des zapatistes. C'est pour ça que ces derniers jours, il a lui-même dit « Vive le zapatisme, vive la marche des zapatistes ». Mais voilà, une fois qu'il aura répondu aux 3 premières conditions, est-ce que les négociations vont vraiment reprendre? Sur quelle base? Parce que effectivement, Marcos n'est pas disposé, comme il l'a dit lui-même, à aller faire une photo avec le nouveau président mexicain. Pour le plaisir que cette photo existe, si les négociations ne sont pas reprises.
On a parfois l'impression que Fox, comme beaucoup d'autres au niveau international, est presque à la limite séduit par le zapatisme. Il y a eu énormément de charisme autour de tout ce mouvement, à tel point ils ont organisé, je crois que c'était en 96 ou 97, les rencontres intercontinentales, certains ont même dit intergalactiques, pour l'humanité contre le néolibéralisme. Ça a été déjà à l'époque un défilé de beaucoup de sympathisants du monde entier, mais notamment des célébrités genre Daniel Mitterrand, dont je me souviens à l'époque. Aujourd'hui, pour la marche sur Mexico, il y avait de nouveau Daniel Mitterrand, il y avait José Bové, il y avait Oliver Stone, Robert Redford. C'était pas le tout Hollywood qui était réuni là, mais tout de même. Donc, d'une part, il y a cette attirance, cette fascination presque, dont on peut se demander d'où elle vient. Et d'autre part, évidemment, l'autre côté de la médaille, on peut se demander s'il n'y a pas là récupération possible, en tout cas. Et que dès que les feux des projecteurs suivront les Redford et Stone qui vont épouser une autre cause, les apatistes risqueraient de tomber dans un oubli relatif peut-être, mais certains y trouvent quelque chose de malsain à cette proximité avec des vedettes.
Oui, c'est effectivement le nouveau voyage à la mode. Et si le Nicaragua des années 80 avait du sex appeal, c'est aujourd'hui le Chiapas ou surtout Marcos qui en a. Mais tant mieux pour lui, je vais dire. Il y a des risques évidemment à cet engouement, s'il n'est pas réfléchi, s'il n'est pas un minimum analytique. Mais qui aurait le droit, qui est en position ici de faire un tri parmi les personnalités qui rejoignent aujourd'hui le zapatisme et qui appuient ce mouvement dans sa marche vers Mexico? José Bové également y était. Donc, moi, je ne suis pas en mesure de dire les personnalités ou les mouvements qui ont une légitimité pour rejoindre le zapatisme aujourd'hui et ceux qui le font de manière plus hypocrite. Tout ce que je constate, c'est que le zapatisme, depuis 1994, en bénéficie énormément. Vous avez posé la question tantôt de la répression militaire. Mais si aujourd'hui il y a une répression militaire en Équateur, le leader du mouvement indigène d'Équateur a été emprisonné fin janvier. Personne ne l'a su, c'est Vargas, le leader de la CONAI, il était emprisonné, personne ne l'a su. Si demain on touche à un cheveu de Marcos ou même à un cheveu du commandant Tacho ou d'un autre, On le saura et c'est même impossible parce qu'il y a une pression internationale. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est que le zapatisme bénéficie de la présence de ces personnalités parmi
L'instrumentalisation
lesquelles
va
moi
dans
je...
les deux sens, en quelque
Voilà.
sorte.
Oui, il ne faut pas douter de la capacité d'instrumentalisation des indigènes et de Marcos sur les sympathisants de ce mouvement.
Mais je pense aussi qu'à ce propos, plus que les célébrités qui vont là, c'est voir quel est le rôle de la presse et des médias face à cela. La
Justement,
presse et les
j'allais y venir.
médias qui ont besoin d'une célébrité pour s'intéresser à une cause et qui ne s'intéressaient pas au Népal avant qui est au Tibet, pardon, les grandes stars qui s'y intéressaient. Et puis maintenant, directement, la seule différence, c'est qu'au Chiapas, tout le monde s'y est intéressé dès le début.
Oui.
Et ce qui est un peu étonnant et qui est dû au fait que c'est assez... Que justement, ils ont véhiculé cette image un peu romantique, comme on dit souvent
C'est
dans les
peut-être un peu aussi le
médias.
talent médiatique dont tout le monde parle de Marcos qui a amené ces gens-là à
Voilà.
s'associer au mouvement. À propos de médias, parce que c'est quand même une émission qui a vocation aussi de parler des médias, quelle est la situation des médias au Mexique? On imagine spontanément des médias dominants et comment dire, qui appartiennent à des groupes industriels ou des énormes groupes médiatiques et où la parole est quand même relativement verrouillée. Est-ce que c'est le cas?
Oui, je pense que c'est le cas pour l'essentiel. Donc, comme dans beaucoup de grands pays du Nord, les gros groupes, les grands groupes médiatiques qui ont effectivement du pouvoir et de l'audience et des moyens pour continuer leur travail, leur stratégie, sont relativement concentrés sur le paysage télévisuel. Ces deux groupes, c'est Televisa et TV Azteca, qui monopolisent presque l'ensemble des téléspectateurs et qui d'ailleurs passent très rarement des images du conflit du Chiapas. Bien entendu, la marche a été couverte, mais ces 7 dernières années, le Chiapas, contrairement à ce qu'on pourrait croire, était complètement sous-médiatisé, ou alors médiatisé, mais par intermittence, et souvent dans les grands médias, en tous les cas assimilé à une narco-guérilla ou à une guérilla comparable à celle que l'on connaît en Colombie.
Pourtant, il y a un quotidien, je dirais certainement pas dominant, mais qui fait tout de même autorité, qui est un quotidien, c'est déjà une prouesse, qui, dès le départ, a parlé tout à fait correctement et abondamment du zapatisme, c'est La Jornada, qui est un quotidien finalement particulier, ou bien qu'est-ce qui fait sa particularité?
Oui, Jean, justement, enfin Zoé, tu peux intervenir, mais justement, face à ces grands groupes, il ne faut pas être manichéen, je vais très vite dans la caricature, mais il existe des organes de presse très intéressants au Mexique, comme dans d'autres pays. La Jornada, qui est un quotidien, en est un, c'est sûr. C'est même très impressionnant la façon dont eux, par opposition finalement à ce que je viens d'expliquer, ont couvert le conflit du Chiapas. Ils ont plusieurs correspondants dans le Chiapas, ce qui est très rare donc pour un quotidien de la capitale, à plus de 1 000 km du Chiapas, de déléguer comme ça des correspondants permanents. Il y a aussi l'un ou l'autre hebdomadaire, l'hebdomadaire Proceso, qui fait un véritable travail de journalisme indépendant. La personne que vous interviewez, Moreno, si je ne me trompe, lui est également issu d'une revue
Oui,
étudiante,
sauf
celle-là.
qu'eux, ils
Oui.
ont vraiment beaucoup de problèmes. Déjà,
Oui.
ils tirent à 8 000, c'est vraiment un tout petit tirage. Et puis, ils sont victimes non seulement de menaces, mais aussi de problèmes plus prosaïques, comme les problèmes pour obtenir du papier. Il y avait jusque récemment un monopole du papier de journal au Mexique. Maintenant, c'est plus le cas, mais le papier est devenu plus cher. Donc, ils sont de toute façon obligés de le trouver sur le marché noir, ce qui est assez aléatoire. Et la distribution aussi était complètement inféodée au prix. Et c'est des gens du prix, donc du Parti révolutionnaire institutionnel qui reste là-dedans. C'est pas toujours facile, en tout cas, apparemment. Chez nous, les médias, comment vous percevez le discours médiatique sur le zapatisme, je dirais, dans la presse francophone? Moi, j'ai constaté en Belgique que c'est plus que pauvre et très, très prudent et parfois même condescendant, voire dénigrant. Il y avait notamment un article ce week-end dans La Libre Belgique qui était un peu limite. Vous pensez que c'est à cause d'une méconnaissance du sujet? Déjà, comment est-ce que vous percevez le discours dans notre presse, dans la presse francophone en général, disons?
Je pense que en général, que ce soit pour le Chiapas ou pour d'autres sujets qui est plus ou moins pointu, il y a un réel manque dans la presse belge francophone, en tout cas. Je pense que c'est rarissime de voir des sujets qui soient traités vraiment en connaissance de cause, et le Chiapas n'échappe pas à la règle. Et donc souvent, c'est assez effrayant de voir. De voir que la plupart du temps, on reprend des dépêches d'agence, ou bien on se focalise sur une idée qu'on a à peine le temps de développer. Donc, c'est pas très riche, je veux dire, la presse, belge francophone. Et même au niveau européen, je pense qu'il y a certains quotidiens qui se démarquent, parfois. Mais une constatation, c'est de savoir qu'il faut qu'il y ait un coup d'éclat, un massacre ou bien une marche apatiste pour qu'on en parle réellement.
Les fonctionnements traditionnels de la presse, quoi. Bernard,
Oui.
une conclusion sur les médias, notamment?
Oui, pas une conclusion, mais je voudrais juste quand même signaler que la couverture du Monde de ces derniers jours était,
En tout
enfin,
cas,
mérite d'être
abondante.
soulignée parce qu'elle était importante et, enfin, à mon avis, à mon humble avis, relativement bien faite. Et ce qui nous change de ce que le Monde faisait précédemment, enfin pas tellement le Monde, mais leur journaliste Bertrand Lagrange, que les gens qui suivent le Chiapas connaissent bien, que les gens qui suivent l'Amérique centrale connaissent bien également, parce qu'il était très connu pour être très critique vis-à-vis des mouvements sociaux en Amérique centrale et d'ailleurs partout en Amérique latine. Aujourd'hui, il n'est plus là, il est remplacé par une autre personne qui, me semble-t-il, a fait un très très bon boulot ces derniers jours. Ils ont énormément parlé du Mexique, ils ont contextualisé, ils ont apporté différents témoignages, des articles de fond. Vraiment, aller sur le site du Monde, sur Internet, si vous voulez avoir une bonne couverture de la marche zapatiste sur Mexico de ces derniers jours.
Et ben voilà, il y aurait eu encore énormément de choses à dire, d'autres extraits d'interviews à passer, mais nous n'avons qu'une heure, hélas, et nous avons déjà dépassé le temps. En tout cas, Bernard Mauss et Bernard Duterme, pardon, et Zoé Mauss,
Pas de problème.
merci mille fois d'avoir accepté mon invitation et peut-être à une prochaine fois. Merci.
Bonsoir.
Bonsoir.
Pour ma part, avant de vous quitter, il me reste encore deux petites annonces à faire. Si cette émission vous intéressait ou si tout simplement vous aimez l'Amérique latine, il y a d'abord le festival Viva Cuba du 5 au 8 avril 2001. Ça se passe à l'espace Sangor et il y a notamment une exposition Cuba au jour le jour, un film qui s'appelle Mémoire du sous-développement, une pièce de théâtre par le théâtre Los Elementos, et le lendemain, le samedi, une soirée animée par les mêmes gens de Los Elementos, et le festival se termine par un concert le dimanche soir. Il y a également Indigenas, c'est une exposition de photos. Après 6 mois de voyage à travers l'Amérique centrale, Adam vous invite à découvrir ses peintures. Autant pour moi, c'est une exposition de peinture. Ça se passe à l'atelier de la Dolce Vita à Saint-Josse, au 37A rue de la Charité. Et le vernissage est le 12 avril, mais l'exposition a lieu du 9 avril au 18 mai. Vous trouverez de toute façon tous les détails sur le site internet de l'émission Alter Echo, dont je vous rappelle l'adresse www.multimania.com/alterecho en un seul mot. Je vous rappelle également la rediffusion de ce vendredi, et je pense qu'à ce moment-là, je vous ai tout dit et que je peux vous dire au revoir et à la semaine prochaine.